Bienvenue, je suis Aurélie et je suis ravie de t'accueillir dans Post Boost. J'ai débuté ma carrière dans les ressources humaines, c'est mon domaine coup de cœur, celui que je n'ai jamais quitté. J'en connais tous les recoins, les joies, les satisfactions, mais aussi les défis et difficultés. La pression, les exigences des uns et des autres, et toi, au milieu, qui essaye de garder le cap avec le sourire. Alors que tu sois recruteuse, coach emploi ou RH, ce podcast est fait pour toi. J'ai conçu Post Boost dans un seul objectif, vitaminer ta vie de RH. À chaque épisode, je te propose une nouvelle clé pour avancer pas à pas. Le temps d'un épisode, appuie sur pause et profite. Bonne écoute! Bienvenue, tu écoutes l'épisode 6 de Post Boost, devenir incollable sur la diversité et l'inclusion. Comme d'habitude, je commence par dire merci. Et cette semaine, c'est au tour de Simplement Antoine qui a laissé un super avis sur Apple Podcast. Un podcast RH qui change. Voilà une approche différente du podcast RH. La bonne humeur d'Aurélie est associée à une expertise dans le domaine qui n'est plus à démontrer. J'attends ses clés avec impatience. Mais on va également savourer des interviews enrichissantes et professionnelles pour éclairer notre chemin RH. Bref, ce podcast s'inscrit dans les incontournables pour ouvrir son horizon et améliorer sa pratique de RH. Alors, merci Antoine. Comme quoi, on peut s'adresser aux femmes sans faire fuir les hommes. Et ça tombe bien, car dans ce nouvel épisode, on va parler diversité et inclusion. J'ai eu le grand privilège de discuter pendant plus d'une heure avec Laura Driancourt, qui est cofondatrice et CEO de Projet Adelphité. Projet Adelphité, c'est une agence de conseil en diversité et inclusion. Je sais, je t'avais promis des épisodes courts, mais là, franchement, notre échange était tellement riche que j'ai bien dépassé la limite que je m'étais fixée. Avec Laura, on a parlé diversité et inclusion, bien sûr, mais aussi QVT, recrutement, les annonces et les canaux de diffusion, onboarding et management. Bref, 45 minutes de pur bonheur pour apprendre, bien sûr, mais surtout des conseils très pratiques pour changer ta façon de voir les choses. Et le meilleur des ressources pour avancer sereinement sur le sujet de la diversité et l'inclusion. Allez, on passe au sujet du jour. Bonjour, bienvenue.
Bonjour Aurélie.
Comment vas-tu?
Ça va bien et toi?
Parfait. Bah écoute, je suis ravie de t'accueillir sur cet épisode de podcast et sur le sujet dont on va parler aujourd'hui, qui est celui de la diversité et l'inclusion. Donc, je suis vraiment hyper contente de te recevoir.
Déjà, merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis ravie d'être là. Je m'appelle Laura Driancourt, j'ai 29 ans et je suis présidente et cofondatrice de Projet Adelphité, qui est une agence de conseil et stratégie en diversité et inclusion. Et avant, j'étais avocate. J'étais avocate spécialisée en fiscalité et ça fait après 8 ans que je travaille sur les questions d'égalité au sens large et de lutte contre les discriminations. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'aligne mes valeurs et mon travail. Et c'est un peu comme ça que Projet Adelphité est né.
Ok, voilà. Hyper intéressant. Et alors, qu'est-ce que c'est Projet Adelphité? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus?
Bien sûr. Donc, Projet Adelphité, donc, comme je te disais, c'est une agence de conseil et stratégie en diversité et inclusion. Notre but, c'est vraiment de faire en sorte que ces sujets soient au cœur du développement et de la performance des organisations, que ça fasse pas un peu le flop de la RSE, tu vois, où en fait la RSE c'est resté en parallèle du business. Mm-hmm. L'idée vraiment, c'est que ça devienne un facteur décisionnel dans les différents pans de stratégie des organisations. On a une approche qui est multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'on va pas travailler que sur l'égalité femmes-hommes ou le handicap, qui sont en France les seules obligations positives, légales positives. Mais on va travailler sur tous les sujets de discrimination et de façon croisée, parce qu'on considère que les discriminations s'auto-nourrissent, que ce sont des mécanismes très similaires et que pour vraiment y répondre correctement, il faut une approche globale. Pour ça, on fait de la sensibilisation, du coaching de manager, parce que ça implique de se remettre en question, etc. Et donc, c'est pour ça le changement, c'est plus facile quand on est coaché en individuel aussi, parfois. Et après, on fait des missions de conseil et stratégie avec, on travaille sur les processus RH des entreprises, on travaille sur leur culture d'entreprise et on travaille aussi sur la revue et l'accompagnement de projets, parce qu'il y a des structures qui sont pas très diversifiées pour éviter qu'il y ait des angles morts.
Du coup, on va commencer par la base, c'est-à-dire le back to basic, parce que j'aime bien les choses précises et simples. Et je pense que ce qui m'intéresse, c'est de connaître ta définition de la diversité.
tous les pans qui existent dans toutes nos caractéristiques. Donc, ça soit le genre, que ça soit l'orientation sexuelle, que ça soit le handicap, que ça soit l'apparence physique. Donc, l'apparence physique, ça peut toucher en partie le handicap quand le handicap est visible, mais ça compte aussi typiquement le fait de porter le foulard, le fait d'être gros ou grosse. Voilà, tout ça, ça fait partie de l'apparence physique. Ça compte aussi la religion, ça compte la couleur de peau, l'origine ethnique, l'origine sociale. Vraiment, c'est toutes nos caractéristiques et c'est ça la diversité. Et l'idée, en fait, c'est que c'est aussi la diversité de la société française, c'est de prendre ça en compte. Et selon les pays dans lesquels on est, la notion de diversité n'est pas la même.
Et c'est quoi, du coup, la définition pour vous de l'inclusion ?
L'inclusion, c'est l'idée que toute personne, quel que soit son profil et ses caractéristiques, justement, puisse prendre part à la société, donc la société en tant que société française ou la société en tant qu'entreprise, et puisse se sentir à sa place, et notamment dans le monde du travail, puisse explorer ses talents, ses compétences et se sentir inclus, en fait, tout simplement, pour qui il ou elle est exactement.
Que dit la loi sur les volets de diversité et d'inclusion ?
Ouais. Alors, en France, c'est pas très développé. Comparé à d'autres pays, on a un peu de retard là-dessus. Déjà, il y a une obligation légale de non-discrimination. Donc, il y a 25 critères. Il faut savoir que pour le coup, on a plus de critères qu'au niveau de l'Union européenne. On en a 25, donc il y en a beaucoup en France. C'est une bonne chose. Et après, quand on part sur les obligations légales positives, c'est ce que je te disais tout à l'heure, je fais la différence entre les obligations légales entre guillemets négatives, dans le sens « il ne faut pas faire quelque chose », donc « il ne faut pas discriminer ». Et les obligations légales positives, c'est-à-dire que les entreprises doivent faire quelque chose. Et à l'heure actuelle, en France, il y a deux pans, c'est l'égalité femmes-hommes et le handicap. Et pour le coup, c'est assez limitant, puisqu'on regarde qu'à l'heure actuelle, ce qui est beaucoup poussé, c'est l'égalité femmes-hommes, et c'est nécessaire. Le problème, c'est qu'on met en avant toujours le même type de profil de femmes. Des femmes qui sont blanches, qui sont cisgenres, qui sont hétéros, qui sont valides, qui sont CSP+. Et en fait, toutes les femmes qui vivent d'autres pans de discrimination, elles sont laissées sur le carreau. Et ça, à notre sens, c'est un problème. Et c'est en ça que la loi ne va pas assez loin en France à l'heure actuelle. Et sur le handicap, il y a un certain nombre d'obligations. Typiquement, à partir de 20 salariés, il y a une obligation d'embauche d'au moins 6% de l'effectif pour des personnes handicapées. Ou sinon, il faut verser un montant à l'AGFIP. Donc, il y a des choses qui existent. Il y a aussi des obligations de formation à la charge de l'employeur pour former, pour manager sans discriminer, pour recruter sans discriminer, ce genre de choses. Mais à l'heure actuelle, pour nous, ça ne va pas assez loin. Et aussi, ça ne va pas assez loin parce qu'on a un gros tabou en France sur la notion de race sociale. Donc, juste, on va expliciter les choses. La race biologique, évidemment, n'existe pas. Mais la race sociale, elle existe. C'est une construction sociale. Et en France, on a un énorme tabou par rapport à ça, à tel point qu'on a enlevé le mot race de la Constitution, comme si ça faisait disparaître le racisme, en fait. Ouais. Et du coup, on n'a pas de politique qui sont menées à cet égard, quand bien même le défenseur des droits, ça fait plusieurs années que l'organisation alerte sur les discriminations à l'embauche, au logement et à l'éducation que vivent les personnes dites racisées. Et donc ça, c'est un problème. Et nous, c'est ce qu'on essaie aussi de prendre à bras-le-corps. C'est pour ça qu'on dit qu'on a une approche multidimensionnelle, c'est qu'on n'hésite pas à croiser ces différents sujets. Et typiquement, une des sensibilisations qu'on propose, c'est une sensibilisation qui croise le genre et la multiculturalité, donc qui permet d'aborder les questions d'égalité femmes-hommes, mais aussi les questions raciales, en fait, tout simplement, en sensibilisant à l'altérité, en expérimentant l'altérité pour développer l'empathie. Il y a aussi l'obligation d'égalité salariale, il y a des grilles à remplir, etc. Ça, c'est bien, mais à l'heure actuelle, c'est absolument pas suffisant pour atteindre vraiment la diversité et l'inclusion, enfin, que dans les entreprises, dans les structures, y ait ça représente en fait la diversité de la société française.
Sur les fameux 25 critères liés au fait de ne pas discriminer, est-ce que tu as un lieu ressource à conseiller à nos auditrices pour soit faire une petite mise à jour, soit vraiment prendre connaissance de ces 25 critères ?
Je recommande toujours les sites du service public pour le coup, qui sont globalement à jour et qui sont très bien construits, qui sont très bien faits. Quand vous faites des recherches Google, typiquement, les valeurs sûres, c'est globalement les sites du gouvernement.
Moi, dans mon job, je suis en contact régulier avec des recruteuses, des RH. Je pense que personne en soi n'est contre la diversité ou l'inclusion. Et je pense qu'il y a un premier élément sur lequel j'aimerais avoir ton avis, c'est de prendre conscience que ça a vraiment
un impact sur la qualité de vie au travail, oui. sur la performance en entreprise, sur l'attractivité. Je pense que ça peut être intéressant d'avoir ton regard pour se dire oui, en effet, je suis pour et j'ai de réels bénéfices à me mettre dans une action un petit peu différente.
Effectivement, donc là, il y a de plus en plus d'études qui montrent qu'il y a des bénéfices super importants. Et typiquement, il y a une étude qui indiquait que dans une culture d'entreprise inclusive, les salariés avaient 3 fois plus de chances d'être heureux et de rester plus longtemps. Et quand on sait ce que coûte le turnover, c'est-à-dire 1,5 fois le salaire annuel chargé d'un salarié junior ou senior, on se dit, bon, il y a quand même quelque chose à faire. Nous, la démarche qu'on a, c'est qu'on considère qu'à partir du moment où il y a une politique inclusive qui a été mise en place, la QVT, ça va tout seul. En fait, naturellement, cette étude le montre. Dans une culture d'entreprise inclusive, les gens sont plus heureux. Donc forcément, ça veut dire que la QVT, la qualité de vie au travail, elle est plus élevée. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit plutôt régulièrement, où on a des gens qui disent « Ah, je recherche un cabinet de QVT ». Et quand on se propose, ils nous disent « Ah non, mais je cherche pas spécialement la diversité inclusion, je cherche QVT ». Mais en fait, si on met en place une bonne politique de diversité et inclusion, c'est-à-dire c'est aussi prendre le temps de communiquer avec ses salariés, de parler avec eux, en fait, la QVT, elle va monter, elle va être positive assez naturellement. Et typiquement, nous, dans la mission culture entreprise, c'est un audit à la base. Ça commence par un audit et on a une partie de l'audit qui est sur les indicateurs d'inclusion. Et les indicateurs d'inclusion, typiquement, ce sont en fait les mêmes critères. Enfin, en grande partie, ce sont les mêmes critères que pour la QVT. Donc, c'est deux sujets qui sont profondément croisés. Et à l'heure actuelle, les entreprises, beaucoup ne réalisent pas à quel point c'est lié et pensent en fait qu'on peut s'inquiéter de la QVT sans travailler sur la diversité et l'inclusion. Alors, ceci dit, c'est le cas. Dans des structures où les profils sont quand même globalement similaires, oui, on peut se dire on va s'inquiéter de la QVT. Sauf que là, il y a l'autre pan qui est sur l'innovation, sur les performances économiques et financières, parce qu'on sait que des structures en fait qui sont diversifiées, elles ont plus d'innovation. Moi, je fais ça toujours la comparaison avec l'expression « think outside the box », donc c'est penser en dehors des sentiers battus. Et l'image que je prends, c'est en mode, si votre entreprise et vos concurrents, en fait, vous avez les mêmes profils, votre boîte de réflexion, votre cercle de réflexion, c'est le même, parce que vous avez les mêmes profils. Et donc, de penser au-delà de ce cercle, très probablement, vous allez retomber sur à peu près les mêmes idées que vos concurrents. Donc, c'est compliqué de se démarquer, d'être plus innovant. Sauf que si vous avez des profils différents, en fait, vos cercles, ils vont se superposer, mais qu'en partie. Donc, au final, vous allez avoir un champ de réflexion déjà plus large. C'est-à-dire que vous allez plus naturellement dans votre structure penser à des éléments qui sont déjà en dehors du cercle de vos compétiteurs. Et au-delà de ce qui fait que vous allez penser encore plus loin. Et donc, capacité d'innovation qui se décuple. Donc, ça, premièrement. Et ensuite, on a des chiffres aussi sur la performance économique et financière des structures, puisque on sait que quand on a une équipe dirigeante paritaire, donc c'est-à-dire au niveau femmes-hommes, on a quand même 25 probabilités de surperformance financière, c'est pas rien. Et cette probabilité de surperformance financière, elle passe même à 36% quand on a une équipe dirigeante qui est diversifiée. Et là, pour le coup, c'est plutôt au niveau ethnique. Et le fait qu'on passe de 25 à 36%, c'est pas surprenant, parce qu'il faut pas oublier que quand on parle de diversité ethnique, il y a aussi des femmes là-dedans. Donc en fait, là, on a un double combo de diversité au niveau du genre et diversité au niveau ethnique et culturel. Donc c'est pas surprenant qu'on ait un chiffre plus élevé. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup dans tout ce qui est campagne de communication, etc., ou sur la diversité, on voit souvent un homme noir qui est représenté, une femme blanche. Et en fait, les personnes, les femmes racisées, elles sont mises de côté. Et moi, je dis, en fait, non, il faut absolument qu'on prenne en compte ça. Et en fait, on peut vivre plusieurs sujets de discrimination en étant une seule personne. Ouais. Donc, voilà. Et donc, il y a tous ces chiffres, en fait, qui montrent qu'il y a un véritable intérêt pour les entreprises de le faire. Et au-delà de ça, au-delà d'une performance financière, il y a aussi le fait que de nos jours, enfin, là, il y a de plus en plus de gens qui veulent que leur entreprise travaille sur les questions de diversité et inclusion, puisqu'on a quand même 57% des 18-34 ans qui considèrent que leur entreprise devrait faire plus là-dessus. Donc, il y a aussi la question de comment on fait pour attirer et conserver nos talents. Et à l'heure actuelle, en 2022, en France, les employeurs, ils sont plus autant en situation de force qu'avant. Ce sont vraiment les salariés qui décident de bouger ou pas, d'aller dans une entreprise ou pas. Et ce levier-là, ça serait dommage de ne pas l'utiliser pour attirer les meilleurs talents.
Voilà. Ouais, je pense, t'as raison. Et puis, je pense en effet que aucune entreprise aujourd'hui ne peut se dire « Bon, allez, on verra plus tard. » À la fois parce que tu l'as très bien expliqué et je pense que pas mal de nos auditrices le savent et le vivent sans doute quand elles recrutent et que finalement elles s'aperçoivent que les candidats ont des exigences nouvelles ou des questions qui sont posées en entretien qui n'étaient pas posées avant. Quand tu recrutes pour un client qui est un client externe, c'est un peu compliqué parce que du coup, tu n'es pas maître vraiment de ce qui va se passer dans l'entreprise. Mais quand tu recrutes pour ta société ou pour une entreprise dans laquelle tu sens qu'il y a des choses qui peuvent évoluer, je pense qu'en effet, on ne peut plus nier ça. Et l'idée c'est, de cet épisode aussi, c'est de se dire on ne peut pas le nier. Et pour autant, si on n'est pas soi-même ou si on n'a pas été soi-même dans cette situation de rejet, on a du mal à comprendre en fait ce que vivent ces candidats quand ils sont candidats ou ces collaborateurs quand ils sont en entreprise. Est-ce que toi, de ton expérience, tu as des témoignages dont tu pourrais nous faire part à ce sujet ?
Oui, totalement. Bah, en fait, ça peut se présenter de différentes façons. Il y a toute la notion de micro-agression. En fait, ça va être toutes les remarques, les comportements dits ordinaires, le sexisme, le racisme, l'homophobie ordinaire, en fait, ont des impacts assez conséquents sur la santé mentale des individus. Il y a de plus en plus d'études qui commencent à sortir là-dessus. Enfin, parce qu'on a aussi besoin de ces données-là pour savoir, pour pouvoir mesurer plus facilement, pour pouvoir aussi alerter quand il y a des difficultés qui apparaissent. Nous, notre audit, il se fait aussi beaucoup du côté des salariés parce qu'on considère que c'est aussi notre job de faire remonter quand il y a des signaux d'alerte. Donc, il y a tout ce qui est micro-agressions qui peuvent avoir des impacts délétères sur la santé mentale des individus. Typiquement, ça peut, dans le pire des cas, ça peut conduire à une dépression, un burn-out ou un bore-out. Ça peut conduire à une remise en question de ses compétences, une remise en question de soi-même. Il y a des personnes qui font part d'un sentiment d'humiliation aussi. Je me sens humiliée parce que je suis pas écoutée ou parce qu'on me coupe la parole, ce qui revient aussi à ne pas être écoutée. Mais ma parole ne compte pas. Donc, c'est compliqué de se sentir à sa place et bienvenue dans une structure où nos idées ne sont pas écoutées. Et on finit par se demander, mais en fait, pourquoi je fais ce travail-là? Quel est l'intérêt? Ça, c'est un problème aussi en termes de qualité de vie au travail, en fait, typiquement. Donc, c'est beaucoup des sentiments difficiles à vivre. Et c'est compliqué de conserver la tête haute vu le temps qu'on passe au travail, en fait. Parce que là, on parle de beaucoup de populations de cadres, quand même. Et les cadres, en moyenne, ils travaillent 40 heures par semaine. Donc, sur 5 jours. Donc, ça veut dire qu'ils travaillent quand même...
Un bon nombre d'heures.
Voilà, ça fait quand même 8 heures par semaine, 8 heures par jour, je veux dire, 8 heures par jour sur le lieu de travail. Donc, si en fait, sur la moitié, on prend des micro-agressions, on nous fait comprendre qu'on n'est pas bienvenu là ou alors qu'on est là juste pour faire le quota, ce qu'on appelle être un token. Mm-hmm. Être un token, c'est un peu genre on a recruté une femme dans l'équipe, on a recruté une personne noire dans l'équipe pour être en mode regardez, on n'a pas que des mecs blancs dans notre équipe. Et donc c'est ça le token, c'est il y a une personne, mais on va pas en recruter plus parce que déjà on a recruté une personne de cette catégorie là. Mm-hmm. Et en fait le problème de ça, c'est qu'on est extrêmement réduit à une de nos caractéristiques. On est la femme de l'équipe, on est le noir de l'équipe, la musulmane de l'équipe ou le gay de l'équipe. Et ça, en fait, ça c'est très déshumanisant parce qu'on est réduit à une caractéristique alors qu'on a des personnalités comme tout le monde. Tout le monde a des personnalités complexes et plus vastes que juste une de nos caractéristiques. Et il y a des études qui montrent que, en fait, à partir du moment où il y a 2-3 personnes qui ont cette même caractéristique, donc 2-3 femmes, 2-3 personnes noires, 2-3 personnes gays, 2-3 personnes handicapées, en fait, on est obligé d'utiliser d'autres caractéristiques pour définir ces personnes-là. Et là, on va vraiment découvrir l'individu. Mais quand on est en position de token, donc on est une personne représentante de notre catégorie sociale, en fait, dès qu'on fait quelque chose, on est ramené au stéréotype, à l'imaginaire autour de ce groupe. Par exemple, je vais prendre un exemple, il y a un stéréotype qui dit que les femmes sont nulles en maths. Toutes les études montrent que c'est faux, mais c'est pas grave, il y a ce stéréotype qui existe que les femmes sont nulles en maths. En fait, une femme qui va galérer à faire un calcul de maths, ça va pas être « Ophélie, t'es nulle en maths ». Désolée s'il y a des Ophélie qui nous écoutent, hein, c'est pas contre vous.
On n'a rien contre vous, Ophélie.
Voilà. C'est pas Ophélie, t'es nulle en maths. Ça va être toutes les femmes, elles sont nulles en maths. Ça va renforcer un stéréotype aussi. Ou typiquement, il y a un stéréotype aussi super négatif qui est les personnes noires sont des personnes qui sont tout le temps en retard. Bah, si on a une personne noire dans l'équipe et qu'elle est de temps en temps en retard, mais ça peut être pour plein de raisons X ou Y, parce que, je sais pas, Marie, en fait, elle a des enfants, et elle a... mais elle arrive à la même heure qu'Ophélie, au final, qui a aussi des enfants. Sauf que Marie, on va le retenir davantage parce qu'elle est noire et on va dire, ça va être en mode, putain, pardon pour le jugement, ça va être, ouais, tous les noirs, ils sont toujours en retard. Voilà. Alors que, à partir du moment où on est 2-3 et que, bah, on voit bien que c'est différent à chaque fois parce que chaque personne est unique et différente, bah, en fait, ça casse ce stéréotype et on n'est pas renforcé dans une seule de nos caractéristiques. Donc, et tout ça, c'est super pesant, en fait, d'être réduit à une seule caractéristique de qui on est, plutôt que d'être vu pour notre personnalité, nos compétences. Et, c'est très déshumanisant et c'est à terme, ça a des conséquences graves sur les santé mentale des individus. Et là, l'OMS vient de dire qu'on est quand même passé à l'heure actuelle, il y a 1 personne sur 8 qui ont des problèmes de santé mentale. Globalement, sur toute la vie d'une personne, il y a 1 personne sur 5 qui a souffert, qui souffre ou qui souffrira d'une dépression. Et là, on passe sur 1 personne sur 8 au moment présent qui a des problèmes de santé mentale au-delà de la dépression. Donc, il y a vraiment eu un impact très fort de la pandémie sur nos santé mentale. Et vu le temps qu'on passe au travail, encore une fois, bah, les entreprises, elles doivent se saisir de ces sujets parce que sinon, il y a tellement de gens qui vont finir en burn-out.
Oui, et puis ce que tu dis est très vrai. C'est-à-dire que finalement, si tu fais... une politique de diversité molle et que tu te dis c'est bon, j'ai mon fameux token de la catégorie sur laquelle je m'étais dit allez, il faut absolument que je fasse de la diversité. Ben, du coup, ça crée un effet qui est complètement dysfonctionnel puisque ce fameux ou cette fameuse Ophélie ou Marie qui est là en tant que token, et ben, du coup, dans son quotidien, elle n'est pas bien. L'équipe ne va pas l'inclure de manière positive parce qu'elle va se dire ben, ça y est, on a notre quota. Ou peut-être, sans doute aussi, avec des personnes qui sont en situation de handicap. Donc, ça veut dire que non seulement, enfin, ton conseil, c'est non seulement, évidemment, qu'il faut mener une politique de diversité et d'inclusion parce que ça participe à la qualité de vie au travail, mais qu'il faut y aller à 100% et pas à 1% parce que sinon, l'effet, finalement, est pire que si on n'avait rien fait. Est-ce que c'est bien ça ?
Complètement, ça peut avoir des effets assez délétères. Et de la même façon, on le voit bien que... Il y a des entreprises qui font des sensibilisations de manière très ponctuelle. Il y a des études là, qui commencent à sortir depuis l'an dernier et qui disent bah, en fait, faire des sensibilisations de façon juste ponctuelle une fois par an, ça peut avoir un effet contraire. Donc, c'est super important de faire des sensibilisations de façon régulière. Et pour compléter sur le sujet de la santé mentale, je vais rappeler que les employeurs ont une obligation de sécurité à l'égard de leurs salariés et la santé mentale, ça en fait partie. Voilà, on doit faire en sorte que les gens ne finissent pas en burn-out ou ne finissent pas en dépression parce qu'ils vivent des agressions au travail, même si elles sont verbales. Parce que micro-agression, il y a agression dedans. Et donc ça, c'est super important que les employeurs s'emparent du sujet et n'aient pas de problème à dire il y a une tolérance zéro dans cette organisation sur les propos sexistes, racistes, homophobes, etc. Et de mettre en place des chartes égalité, ce genre de choses, sachant que la bonne nouvelle, c'est que les chartes égalité, elles rentrent dans le cadre du règlement intérieur. Mmh. Et donc, ça permet, s'il y a besoin, de mettre en place des sanctions, voire des licenciements lorsque les comportements deviennent abusifs. Et ça, c'est quand même super fort, parce qu'il faut rappeler que l'employeur peut fixer des règles plus strictes que la loi sur certains comportements. Et une charte égalité, ça permet de renforcer ça. Ou ça peut être dans le cadre du règlement intérieur général hein, aussi, bien entendu. On n'est pas obligé de créer une charte égalité, même si ça envoie un signal assez fort. Mais voilà, c'est vraiment important que les employeurs s'emparent de ça et que, à notre sens, c'est vraiment important de commencer à la base de l'iceberg. Parce que les gens, ils pensent toujours de... oui, bon, ce qui n'est pas acceptable, effectivement, c'est le mec qui fait un commentaire sur le décolleté ou qui met une main aux fesses. Effectivement, alors ça, c'est absolument pas acceptable. Mais ça, c'est le haut de l'iceberg.
Du coup, est-ce que tu as des conseils issus de ton expérience et des différents clients avec lesquels tu as pu travailler sur le fait de recruter en ayant à l'esprit ces données de diversité et d'inclusion ?
Ouais. Alors déjà, le plus important, c'est de faire le travail en amont. Donc, on ne fait pas le travail en dernière minute qu'on est en train de recruter, enfin, qu'on est en train de chercher des candidats et des candidates. Déjà, ce qui est super important, c'est de faire la liste des compétences qu'on recherche. On ne cherche pas un diplôme, on cherche des compétences. En France, on a un peu ce problème. En France, on aime bien le diplôme, ça renforce. On se dit, ah, c'est sûr, c'est safe. En fait, ce n'est pas nécessairement le cas. Il y a des gens qui ont des diplômes et qui sont moins bons que des gens qui n'ont pas de diplôme. Donc, c'est important de faire cette liste de compétences, donc hard skills et soft skills, qu'on va chercher dans le CV. Et puis ensuite, qu'on va chercher en entretien. Et de faire ce qu'on appelle une scorecard. Et une scorecard, donc en fait, c'est cette liste de compétences. On va attribuer une note pour chaque compétence et en fonction du niveau d'importance de chacune des compétences, qu'il y en a qui sont plus ou moins importantes. Donc, il y a cette scorecard. Donc de se concentrer quand on reçoit un CV sur ça, sur les compétences et qu'est-ce qu'on a défini dans la scorecard. Et on coche, en fait. On coche ou on met une note. Je préfère qu'on coche quand même, puisque si on note, bah, y a à nouveau un risque de biais. Il vaut mieux cocher de « est-ce que cette compétence est remplie ?» Sur les entretiens, bah, comme la question qu'on doit se poser en amont, c'est comment on s'assure des compétences, en fait, comment on teste les compétences, donc quelles questions on va poser. On va essayer de faire des questions ouvertes. Ça, typiquement, c'est de façon à rendre plus objectif un recrutement. Nous, ce qu'on fait, c'est quand on arrive dans une structure et qu'on participe au process de recrutement, on fait un petit bilan. Et pour ce bilan, on demande les dernières listes de CV, on demande les listes de CV reçues, enfin le nombre de CV reçus, le nombre de femmes, le nombre d'hommes. Là, pour le coup, légalement, on n'a pas le droit d'aller plus loin. Enfin, on pourrait, mais c'est beaucoup plus compliqué. Donc, on se concentre sur le genre. On sait très bien d'expérience que si on remarque qu'il y a un biais au niveau du genre, 9 fois sur 10, il va y avoir un biais sur d'autres sujets, en fait. Ça découle assez naturellement. Donc, ça nous permet quand même de voir où est-ce qu'on a besoin de cibler. Donc, on voit en fait le pourcentage de candidatures de femmes reçues. Et on voit déjà s'il y a un problème au niveau de la diversité du pool de candidatures. Ensuite, on regarde aussi quels sont les canaux de diffusion qui ont été utilisés en se disant, bah, est-ce qu'il y a peut-être un problème de diversité sur les canaux de diffusion? Il y a des entreprises, des startups notamment, qui font leurs annonces que sur Welcome to the Jungle, sauf que Welcome to the Jungle, ça s'adresse à un public quand même très particulier, très blanc, plutôt masculin et d'école de commerce et d'école d'ingénieurs, ce qui fait que et CSP+, et donc il y a une partie de la population qui est mise de côté. Donc ça, on va encourager à élargir les canaux de diffusion. Ensuite, on va regarder à partir du nombre de CV de femmes, de CV de femmes et d'hommes reçus et de personnes non-binaires, la rétention, en fait, au niveau de la sélection des CV et la rétention au niveau des entretiens. Et là, on va voir s'il y a un biais cognitif, en fait, qui s'est activé. Où est-ce qu'on a besoin d'intervenir? Est-ce qu'on a besoin d'intervenir pour que le pool de candidatures soit plus diversifié? Nous, typiquement, on avait un client, c'est un studio de jeux vidéo, donc on est dans un secteur plutôt tech, qui avait en moyenne 14% de candidatures de femmes. Et dans le meilleur des cas, ils avaient 30%. Ils sont en mode, bah, en fait, c'est compliqué, là, on est quasiment que des mecs. Nous, on veut, ils sont 10 et ils vont doubler dans les mois qui viennent. Nous, on veut de la parité, enfin, juste, mais on est largué parce que bah, on sait pas comment faire. Et il y a des postes.
On ne sait pas où les trouver.
C'est ça. Et il y a des postes où, en fait, on a 0%, 0 CV de femmes reçues. Donc, c'est impossible, du coup, de recruter une femme. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé sur les annonces. On a travaillé sur dans les bons tips. C'est travailler sur sur les valeurs de l'entreprise. Comment ça s'applique au quotidien? Donc, qu'est-ce qui a été mis en place par la structure pour justement appliquer ces valeurs au quotidien, de parler qu'est-ce que l'entreprise recherche, mais aussi qu'est-ce que l'entreprise apporte. Mmh. Il y a beaucoup trop d'annonces où on est en mode telle entreprise, on recherche ça et ça. Sauf que ces entreprises ne disent pas voilà ce qu'on va vous apporter dans votre carrière, en fait. Voilà l'épanouissement qu'on vous propose. On a travaillé sur la fourchette de salaire aussi pour que ça soit indiqué. Parce que ça fait partie des choses où on sait que les femmes candidatent plus facilement quand il y a une fourchette de salaire, les femmes et les minorités en général d'ailleurs. On a travaillé aussi sur le vocabulaire employé. Il y a un certain nombre de structures qui emploient un vocabulaire qui est très guerrier, très masculin. Ça fait fuir les femmes. On le sait, enfin, voilà, il y a des études qui montrent que ça fait fuir les femmes. Donc, on a retravaillé sur le vocabulaire, les formulations, de faire souvent avoir un langage qui est plus neutre. Et aussi, typiquement, on n'a pas tout genré au masculin. On a rendu les formulations neutres. Et ça passe pas nécessairement par un point médian. Parce que j'entends les gens qui sont en mode « Ah, l'écriture inclusive !» L'écriture inclusive, c'est plus large que le point médian. L'écriture inclusive, c'est aussi des formulations qui sont plus neutres. Par exemple, on va essayer de dire « les élèves », c'est un terme qui est neutre, c'est un terme qui est épicène, puisqu'il s'écrit et se prononce de la même façon pour des hommes, des femmes ou des personnes non-binaires. Bon, bah, on va réfléchir à ça, à ce genre de formulation. Évidemment, on parle pas d'élèves en général quand on recrute, mais... C'est juste pour donner, où on va dire, vous allez travailler dans telle direction, en fait. Ça permet d'avoir un langage qui est neutre. Donc, on a travaillé sur tous ces éléments. On a travaillé sur les canaux de diffusion. On les a élargis. On a contacté des associations pour la parité et pour la diversité. Et ces associations, ben, en fait, elles ont des membres et à qui elles font passer des CV qu'on a contactés. Et en fait, avec tout ça, ben, on est passé en moyenne à 50%. On est passé de 14% à 50% alors qu'on est en secteur tech.
Et sur combien de temps vous avez fait ce travail d'analyse
Même pas 2 mois.
Ah ouais, donc pour le coup, dans le cas de cet exemple, le principal levier que vous avez activé, c'était aussi les canaux de diffusion et ouvrir un peu ses chakras sur le fait de se dire bah, finalement, j'utilise toujours les mêmes sites emploi, c'est très confortable, je les connais, mais ça va drainer la même typologie de candidats.
Exactement.
Donc, en effet, c'est un excellent conseil. Ouais. Sur la partie annonce aussi, donc, dans l'épisode 4, j'ai reçu Clara Lefebvre, qui est copywriter et qui a aussi donné des conseils sur comment on peut retravailler cette annonce. Est-ce que tu as des éléments hyper précis et pour le coup des éléments discriminants qu'on ne doit absolument pas faire figurer dans une annonce ? Parce que je sais qu'il y en a quand même.
Mais... Oui, oui. Alors, il y en a. Bah, typiquement, vous n'avez pas le droit de dire que vous recherchez un homme ou une femme pour un poste. Alors, il y a des exceptions qui sont très précises. Mais dans la tech, en général, il n'y en a pas. Enfin, je reprends l'exemple de la tech ou des startups, en général, il n'y en a pas. Donc, vous n'avez pas le droit de dire, voilà, on cherche un homme pour ce poste. Vous n'avez pas le droit de dire que vous cherchez une catégorie d'âge. Vous n'avez pas le droit que vous cherchez des personnes blanches. Alors, c'est rarement marqué dans les annonces, mais on sait très bien qu'il y a des employeurs qui passent la consigne à aux agences de recrutement. Des échos que j'ai, il y a de plus en plus d'agences de recrutement qui refusent. Catégoriquement. Ouais. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire quand même les choses changent de façon positive. Et je tiens particulièrement à remercier ces agences pour leur déontologie, leur moralité sur ces questions. Donc voilà, ça va être ça les éléments discriminants légalement qu'on n'a pas le droit de préciser. Après, ce qu'on peut faire aussi, donc ça, il y a pas d'obligation de la loi. C'est vraiment cette écriture neutre parce que même s'il y a des titres d'annonce où il y a marqué H/F/ non binaire. En fait, la formulation dans l'annonce est tout au masculin. Et en fait, on n'a pas envie d'y aller, typiquement. Voilà. Donc, c'est vraiment important de retravailler ces formulations, de dire, par exemple, je cherche un ou une développeuse. Si on ne veut pas employer le point médian, nous, personnellement, on utilise des guillemets, mais on va rester sur l'idée du... Enfin, on utilise une apostrophe plutôt. On va rester sur l'idée du point médian. Si on n'a pas envie d'écrire un le point médian, on peut dire un ou une développeuse. Nous, on est aussi en faveur d'employer l'accord de proximité. Donc, si on dit un ou une, en fait, on va employer le féminin ensuite. Et les études montrent que les hommes postulent pas moins à ce genre d'annonce. Par contre, que les femmes postulent beaucoup plus. Donc, au final, d'employer un langage qui est plus neutre, voire qui tend un peu vers le féminin comme ça, puisque c'est un accord de proximité, ça ne fait pas fuir les hommes. Ou du moins, si ça fait enfuir certains, c'est potentiellement des gens que vous n'avez pas envie d'avoir dans votre structure si vous êtes dans une démarche diversité-inclusion. Puisque potentiellement, ce seront des troubles faits, pour le dire de manière gentille. Mais ça va attirer plus les femmes. Voilà, donc, il y a ça. Et après aussi, nous, ce qu'on encourage nos clients à faire, c'est d'indiquer qu'est-ce que propose l'entreprise en termes d'horaire de travail, de flexibilité. Typiquement, si c'est une structure qui dit « nous, on ne fait pas de réunion après 17h », c'est super important de le mettre dans l'annonce, en fait. Pareil, est-ce que le télétravail, à quel point c'est possible, etc. C'est super important de le mettre. Et typiquement, de savoir qu'il n'y a pas de réunion après 17h, bah, hélas, on sait encore que ce sont en majorité les femmes qui s'occupent des enfants et que les hommes, beaucoup moins. Bah, en fait, une maman... Parce qu'on parle aussi beaucoup de postes seniors. Hein, dans ces cas-là, nous, on est beaucoup contactés pour accompagner sur les postes seniors. Bah, un poste senior et qu'on cherche des femmes, on sait qu'il y a une forte probabilité que ça soit une maman aussi. Ce n'est pas juste une femme et une employée, c'est aussi une maman. Et donc, si on lui dit qu'il n'y a pas de réunion après 17h, bah, ça lui permet d'avoir beaucoup plus de flexibilité dans son temps de travail, en fait, dans son organisation de sa journée pour aller chercher ses enfants et quitte à retravailler après en distanciel. Si elle le souhaite.
Ça enlève un peu la charge mentale que tu peux avoir de dire, tiens, est-ce que cette entreprise-là, ça va vraiment me permettre de ménager la vie de la journée, la vie du travail la vie du soir.
On a l'impression, depuis que les femmes sont rentrées en masse sur le marché du travail, que en fait, on ne peut pas être employée et mère. C'est quand on est au travail, on est juste employé. Quand on est à la maison, on est juste mère. Sauf qu'en fait, ce n'est pas le cas. On recommande aussi beaucoup, beaucoup à nos clients et c'est de d'expliciter les choses. Il faut expliciter. Quand vous avez des bonnes pratiques dans votre structure, il faut les dire, il faut les expliciter. Il faut dire comment vous travaillez, il faut dire comment vous organisez le travail, quelles sont les exigences que vous avez. Et ça, ça se fait dans l'annonce, ça se fait dans l'entretien et ça se fait lors de l'onboarding. Parce que ce n'est pas parce qu'on en a parlé lors de l'entretien que la personne s'en rappelle nécessairement. Et c'est important de le réexpliciter à l'arrivée, de dire voilà, nous, ça se passe comme ça. On attend ça de toi. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Quelles sont tes attentes, etc. Ça permet de partir sur un pied commun. Et en plus, potentiellement, si on a recruté une personne qui est neuroatypique, qu'on ne le sait pas, voire que potentiellement elle-même ne le sait pas, parce qu'il y a, notamment quand on parle de femmes, on sait qu'il y a un sous-diagnostic des femmes autistes, typiquement. Bah, en fait, dans tout ce qui est neuroatypie, hein, quelque chose qui fait beaucoup de bien, c'est d'expliciter les choses. Et à partir de là, c'est beaucoup plus facile de se sentir inclus ou incluse parce qu'on sait ce qui est attendu de nous, en fait. À partir du moment où on a un cadre, c'est plus facile. Et je parle des personnes neuroatypiques, mais en vrai, ça marche pour tout le monde. L'humain apprécie d'avoir un cadre. Et ça, c'est un job des employeurs et pas de considérer que les gens savent instinctivement ce qui est attendu d'eux, en fait. Et après on dit aux gens « Ah non, t'es pas un cultural fit dans la structure », alors qu'on n'a pas expliqué ce qui était attendu. Et ça, c'est la porte ouverte à d'autres discriminations, en fait.
C'est hyper intéressant parce que je pense que trop souvent, on a tendance à tout déconnecter. Déconnecter la phase de chasse et d'approche candidat, de la phase où on va le sélectionner, de la phase où il va arriver et de la carrière. Or, en fait, c'est des éléments, bien entendu, qui sont liés. Et là, tu viens très bien d'expliquer aussi que, du coup, il faut penser diversité, inclusion, explicitation pendant la période d'onboarding. Et est-ce que tu as d'autres conseils sur comment je peux, finalement, inclure la diversité et l'inclusion dans la façon dont je communique avec mes collaborateurs? En gros, comment je fais pour expliquer aux collaborateurs actuels et aux nouveaux arrivants, alors que ce soit dans une start-up ou ailleurs, comment je fais pour expliciter quelles sont les actions que je mène sur ces aspects de diversité et d'inclusion?
Communication, communication, communication. C'est vraiment important. C'est important aussi de leur dire si jamais il y a besoin de feedback, s'il y a des problèmes ou quoi, ma porte est toujours ouverte. Alors, ce n'est pas obligé d'être un toujours absolu. Ça peut être en mode tel jour, de tel créneau à tel créneau. En fait, ma porte est ouverte. Voilà, s'il y a besoin, parce que on peut pas toujours être rentré comme dans un moulin, parce que quand on est patron ou manager, on a besoin d'avoir des moments où on est en focus. Donc de dire voilà, il y a ces créneaux où il y a une ouverture de conversation là-dessus, s'il y a besoin de quoi que ce soit, sachez que je suis là en fait et que je vous écouterai et qu'on réfléchira ensemble au problème. Voilà. Donc ça, c'est important de l'expliciter et à notre sens, ça doit faire partie des processus qui sont mise en place dans une structure. Comment on reçoit une parole? Qu'est-ce qu'on met en place comme action? Et de prendre en compte de quoi la personne a besoin. J'étais dans une structure où, à un moment, les femmes manageuses, donc à partir de 5 ans, partaient en masse une fois qu'elles avaient eu un enfant. Et parce qu'en fait, quand elles revenaient, on leur remettait la même charge de travail qu'avant. Donc, elles en avaient beaucoup. En fait, j'arrive pas à tout gérer, donc j'abandonne. Et ce qu'a fait la structure, ça a été de dire, en fait, quand vous revenez, on vous donne quasiment pas de travail. Ce qui est extrêmement frustrant aussi. Alors que, en fait, la bonne méthode, c'est pas de dire on fait une politique générale, c'est de dire la politique générale, c'est de faire du cas par cas. C'est de se poser avec la personne à son retour de congé, maternité, et lui dire, toi, tu veux quoi? De quoi tu as besoin à l'heure actuelle? Parce que selon le temps de transport, selon différentes choses, quelle est l'organisation qui te convient? Et sache que le temps que tu prendras, si tu veux un retour plus en douceur, on ne te sanctionnera pas pour ça. Et ça, c'est important de l'expliciter aussi. Parce qu'en explicitant qu'il n'y aura pas de répercussions négatives à une décision ou une autre, la personne, elle se sent beaucoup plus en sécurité psychologique pour dire ce dont elle a besoin. Ça, c'est aussi important à expliciter, de dire il n'y aura pas de répercussions négatives. Je tiens à entendre ce que tu as à me dire parce que je veux que tu te sentes bien dans la structure et je veux qu'on s'améliore aussi en termes de culture d'entreprise. Voilà, donc, c'est vraiment expliciter et demander aux gens, en fait.
C'est hyper intéressant ce que tu racontes parce que ça parle aussi de croyances. Les croyances qu'on a les uns et les autres par rapport aux uns et aux autres. La croyance, c'est qu'une femme qui revient de congé maternité, elle veut être à 100% avec son bébé. Oui, dans certains cas, mais dans d'autres, non. Et présupposer que on va pouvoir revenir avec un niveau de performance comme il était, oui, des fois c'est possible, et non, c'est pas possible. Et je trouve ça assez intéressant, l'idée de se dire, alors après, je suis un peu naïve, ou en tout cas je suis optimiste, on va dire, de me dire que c'est possible partout, en fait. Je pense que c'est des petites actions du quotidien qui font qu'en effet, on peut parler, on peut exprimer les choses et on doit proposer ces temps d'échange. Et c'est pas parce qu'on revient de congé mat ou qu'on part en congé mat qu'on a plus de neurones. C'est pas parce qu'on en revient qu'on en a plus. Enfin, chaque femme est différente. Chaque projet d'enfant, que ce soit un enfant qui vient de toi ou un enfant que tu as adopté, ça n'a pas été du tout le même parcours, le parcours de vie, le parcours de temps, etc. Donc, je pense qu'en effet, c'est hyper important de ne pas présupposer ce que veut l'autre et tout simplement de lui demander de quoi tu as besoin aujourd'hui à ton retour, en particulier sur l'aspect du congé maternité.
C'est exactement ça. C'est vraiment important de ne pas présupposer, de ne pas partir du principe qu'on sait ce dont la personne a besoin. La seule personne qui sait ce dont elle a besoin, c'est elle-même. Donc c'est important d'ouvrir cette conversation. Et oui, ça prend plus de temps. Sur le court terme, ça prend plus de temps. Mais sur le long terme, en fait, c'est tellement plus bénéfique en fait, de prendre le temps d'échanger avec les gens, de comprendre leurs besoins, leurs limites, leurs souhaits. Et nous, typiquement, on a une alternante en communication. En fait, les premières semaines, les premiers mois, je pense que je passais 2-3 heures, voire 4 heures par semaine en call avec elle. Nous, on est à 100% en distanciel pour la former, pour l'accompagner, pour voir où est-ce qu'elle avait besoin de progresser, etc. Et en fait, au bout de 3-4 mois, elle est devenue totalement opérationnelle. Voilà, on échange quasiment que par chat. Je lui fais les feedbacks pour qu'elle continue à progresser, mais je passe beaucoup moins de temps parce que j'ai pris le temps en amont de la rendre opérationnelle. Et si je l'avais pas fait, je sais très bien qu'en fait, j'aurais passé le double de temps à essayer de lui expliquer les choses. Donc, sur le long terme, j'ai gagné du temps. Et ça, c'est aussi important de se dire, c'est important de travailler sur le temps long. Mmh. Et ça, c'est quelque chose dans nos sociétés actuelles modernes qui est super compliqué à faire. On veut tout que ça aille tout de suite, très vite. On veut des résultats. Et ça marche aussi dans tout ce qui est recrutement, onboarding et tout. On voudrait que les gens ils soient directement opérationnels, mais on ne veut pas prendre le temps pour ça.
Mmh, c'est vrai.
Et ça, c'est une erreur. Et c'est important de prendre le temps pour discuter avec les gens, pour les connaître, pour les former. Et en plus, les gens, ils nous le rendent au centuple. Et il y a une phrase d'une coach que j'admire énormément et que j'aime énormément, c'est Marie Da Silva. Et dans son livre « Survivre au taf », elle dit « Qui a le pouvoir d'intégrer ? Qui a le pouvoir d'inclure ?» Et les personnes qui ont ce pouvoir-là, ce sont les managers. Ce ne sont pas les juniors. Et on ne peut pas demander à des juniors de se plier en quatre pour être intégrés. Et là, j'emploie le mot « intégré » à dessein parce que être intégré, ce n'est pas la même chose qu'être inclus. Être intégré, c'est nous devoir lisser des parties de notre personnalité, de qui on est, pour pouvoir sentir à peu près à sa place, mais on n'est pas vraiment nous-mêmes. Alors que l'inclusion, c'est une démarche qui vient de la structure, des gens qui ont, on va dire, le pouvoir, et de dire, mais en fait, tu es bienvenu tel que tu es, et on te veut tel que tu es. Et donc ça, c'est un travail que les managers doivent faire, les managers et les dirigeants, dirigeantes doivent faire, c'est se dire, mon job, c'est aussi de participer à ça. Et oui, je vais peut-être mettre les mains dans le cambouis, on va dire, dans la technique au jour le jour, mais parce que mon job, il est en fait, il est là pour que tout soit fluide, en fait. Et donc, c'est prendre le temps, discuter avec les gens, expliciter les choses, toujours, toujours expliciter. On est dans un pays où il y a beaucoup une culture d'alcool très forte. Sauf qu'il y a des gens qui ne boivent pas d'alcool, pour différentes raisons. La plupart du temps, les gens pensent que c'est des questions religieuses, mais ça peut être des questions très personnelles. Ça peut être, je vais reprendre l'exemple d'Ophélie, désolée s'il y a des Ophélie qui nous écoutent.
Ophélie, ce n'est pas ta journée.
Ophélie, elle a peut-être un de ses parents qui était alcoolique. Et elle a vu son parent souffrir. Il n'a peut-être pas nécessairement été violent, mais ça a été une souffrance par rapport à ça. Et donc Ophélie, elle a décidé de ne pas boire d'alcool. Mais Ophélie, elle n'a pas envie qu'on lui demande « Mais pourquoi tu bois pas d'alcool ? Mais t'es sûr, prends un verre, etc. »
Pas te détendre.
Exactement. Ou alors qu'on lui fasse un reproche de « Ouais, tu t'intègres pas vraiment parce que tu bois pas. » Alors déjà, ça c'est super problématique, mais ça arrive assez régulièrement qu'on fasse comprendre aux gens ça, surtout dans les cultures start-up, on ne va pas se mentir, puisque c'est des cultures assez jeunes. Et donc, il y a beaucoup cette imagine, enfin, toute cette idée-là. Et donc, c'est super important de dire, il n'y a pas d'obligation de boire, en fait, et on ne te fera pas de remarque là-dessus. Et s'il y a quelqu'un qui te fait une remarque, tu as le droit d'envoyer bouler cette personne.
Je trouve cette approche intéressante de se dire que finalement, en tant que manager, soi-même, à son niveau, et même si ce n'est pas forcément quelque chose qui vient au-dessus de nous, on a la capacité d'agir et de fonctionner différemment avec ses équipes. Oui. Est-ce que tu as des idées de ressources pour celles qui voudraient approfondir sur les sujets dont on vient de parler ?
Ça va être tout ce qui est le travail pour se remettre en question. Donc, il y a des ressources là-dessus, de bonne communication, de communication non violente. Ça, c'est une super bonne ressource, tout ce qui est communication non violente. Et donc, oui, je parle de développement personnel.
Mais tu peux.
Voilà. Il faut quand même faire attention avec le développement personnel parce que parfois, ça ne replace pas dans le contexte sociologique et sociétal. Donc, on peut avoir beaucoup de développement personnel qui est en mode « Ah, si tu veux, tu peux le faire », etc. Tout en oubliant, en fait, qu'on vit que quand on a certaines caractéristiques, on vit des discriminations. Et donc, quand on veut, en fait, on ne peut pas toujours. Voilà. Donc, ça, c'est important. Mais en tant que manager, ça va être vraiment se poser là-dessus. HBR, donc la Harvard Business Review, propose des très bons livrets récapitulatifs de comment être un bon manager. Alors, ça ne s'appelle pas exactement comme ça, mais c'est manager ses équipes, ce genre de choses. Et il y a beaucoup cette démarche de communication, d'écoute. Les magazines, je crois qu'ils sont bimensuels ou trimensuels, je ne me souviens plus, mais qui sortent assez régulièrement de HBR, reprennent également des bonnes pratiques de management. Donc, je ne peux que recommander ces ressources-là. Et après, il y a toutes les ressources de développement personnel. Sur Instagram, il y a plein de comptes comme ça sur comment créer des relations qui soient bienveillantes. Et en fait, c'est parfois souvent sur les relations amoureuses, mais je trouve qu'il y a des bonnes pratiques qu'on peut appliquer dans toutes nos relations, qui est de s'exprimer de façon bienveillante, d'apprendre l'écoute active. Mais au final, ça revient toujours à de la communication non violente. Voilà. Donc, je dirais travailler sur la communication non violente, ne pas hésiter à lire HBR, qui a globalement en fait, de très bonnes ressources sur ces questions-là, puisque les États-Unis, pour le coup, sont quand même beaucoup plus avancés que nous sur les questions de management, et aussi de se rappeler que le management, ça s'apprend. Voilà, en fait, comme tout, il y a des gens qui ont des qualités pour ça, mais si on ne les travaille pas, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, c'est important que les entreprises forment les managers et que les managers aussi prennent le temps de se former pour ce job-là. Et je suis contente parce que sur LinkedIn, on commence à en parler. Il y a des gens qui commencent à dire « Devenir manager, ce n'est pas un but en soi. Tout le monde n'est pas fait pour ça, etc. C'est de la reconnaissance sociale d'être manager, mais ça ne rend pas nécessairement heureux. »
On va finir par la dernière question, qui est celle que je pose à toutes mes invitées. La question, c'est quoi pour toi une post-boost, Laura ?
Alors, pour moi, une post-boost, c'est un peu tous les jours, parce que je fais du yoga tous les jours. Ça me fait énormément de bien. Ça m'a appris à vraiment respirer, à me concentrer sur ma respiration. Donc, en tant que chef d'entreprise, c'est super important pour gérer son stress, etc. Moi, j'ai des problèmes d'anxiété, donc ça m'a vraiment fait un bien immense. Je me sens beaucoup plus apaisée depuis. Après, dans les fois où j'ai vraiment besoin de me vider la tête, je vais courir.
Okay.
Je vais courir, ne serait-ce qu'une demi-heure, soit avec du hard rock un peu vénère, soit avec un podcast, en fait, qui me permet de me vider la tête.
Ok, cool. Ouais, merci pour ces deux conseils et pour ta vision de la pause boost, Laura.
Merci à toi pour tout cet échange. C'était super chouette.
C'était super intéressant. Comment on fait si on veut te suivre ou suivre le projet Adelphité ?
Alors, pour nous suivre, donc on a une page LinkedIn, Projet Adelphité. On a aussi un compte Instagram, Projet Adelphité. Et vous pouvez également me suivre sur Instagram avec Laura Driancourt.
Voilà. Ok, parfait. Bah, merci beaucoup, Laura. À bientôt.
Merci à toi. À bientôt.
Je suis sûre que, comme moi, tu as adoré écouter Laura parler diversité et inclusion. C'est à mon tour de faire une pause boost en août. Mais pas de panique, on se retrouve en septembre. Et d'ici là, bel été à toi. J'espère que cet épisode t'a plu et que tu as fait une super pause boost avec moi. N'hésite pas à en parler autour de toi, c'est le meilleur moyen pour moi de faire connaître mon podcast. Si tu as aimé, tu peux laisser des petites étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Et pour ne pas louper ta prochaine pause boost, abonne-toi. Pause boost est disponible partout.